appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce débat citoyen. Selon les directeurs de cabinet démissionnaires du Premier ministre, 800 personnes, conseillers et personnels d'appoint compris, sont nommés et travaillent depuis une année maintenant à la primature. Michel Somoué a livré ses chiffres la semaine dernière sur Top Congo, alors qu'une altercation qu'il avait opposée à un conseiller du même cabinet avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Si ces chiffres sont exacts, ils représenteraient le double du personnel que comptait le cabinet de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou en 2009. Que vous inspire cette situation à la primature? À l'adresse pa@radiocapi.net, vous pouvez intervenir en direct dans cette émission en composant bien entendu les 09 97 06 63 30 ou encore les 09 97 06 49 69. Julie Feza, je voulais dire plutôt Willem Lungamba, assure la mise en onde de cette émission réalisée par Pierrot et la Mégie. Nico Kalambay est au standard de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebujangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Claude Kibala qui est en ligne. Bonjour Monsieur Jean-Claude.
Bonjour Monsieur J.R.
Vous êtes ministre honoraire de la fonction publique. Vous avez suivi l'actualité comme nous. Avec ces chiffres, beaucoup de gens craignent que finalement qu'il y ait beaucoup d'argent, que cette institution puisse en fait être très budgétivore. Est-ce que vous partagez cet avis?
En fait, 800 personnes au niveau du bureau, hein, du cabinet d'un premier ministre d'un pays aussi pauvre, avec tous les chiffres que vous connaissez sur la situation de pauvreté en RDC, et surtout qu'il y a une crise politique qui me demande d'aller sur la question électorale, où on a plusieurs fois entendu les responsables de cette institution qui n'ont pas assez de moyens pour organiser les élections, mais on a un premier ministre qui engage 800 personnes, et quand il est interrogé sur la question, il dit que c'est vraiment son côté social de pouvoir donner de l'emploi à plusieurs personnes en utilisant le budget mis à sa disposition. Et donc, il a réparti le budget à 800 personnes pour donner de l'emploi aux gens. Bon, en réalité, si on ne connaît pas le fonctionnement de l'État et comment on engage les gens dans les services publics, comment on engage des agents de l'État, parce que ces membres de cabinet sont des agents de l'État selon le code de conduite d'un agent de l'État, on sait très bien que on les engage pas en les retirant, de membres de famille. Mmh. Il y a des fils, des filles, des cousins, ainsi de suite. Si on voulait bien donner de l'emploi aux Congolais et faire sortir son côté social, on aurait pu recruter ces gens sur base de leurs compétences. Ça serait peut-être une façon de justifier son côté social, mais son côté social ne peut pas être justifié quand on utilise le moyen public pour favoriser ses membres de la famille. Et pour moi, sans beaucoup de commentaires sur la question, je trouve que c'est un scandale, et c'est encore plus scandaleux de voir que depuis que cette histoire est sortie, le chef de l'État ne prend pas de décision pour se débarrasser de ce premier ministre qui se comporte en réalité comme si l'histoire de l'État, la gestion de l'État, c'est comme si c'était une gestion de famille. Il est en train de gérer une république et à la tête de la république, il se comporte comme si il gérait une famille. Et moi, je me pose la question, en dehors de cette question de gestion du personnel au niveau du cabinet, qu'est-ce qui est encore géré, hein, comment il gère la république dans d'autres dossiers? Est-ce que c'est la de la même façon qu'on gère la République, parce que quand on a des frères, donc tous les dossiers sont gérés dans le cadre de la famille Kibala. Et là, c'est quand même très grave.
Monsieur Jean-Claude Kibala. Jean-Claude Kibala, si d'un côté il y a ces problèmes du budget qui se posent, disons cette pléthore risquerait d'avoir un impact sur le budget national. Nous étions à 400 dans le gouvernement Mouzitou, à 600 le gouvernement de 2016, dont vous avez été membre, et aujourd'hui en 2018 aujourd'hui, nous sommes à 800 agents, et déjà ça a un impact sur les salaires, mais d'aucuns craignent aussi les conditions de travail, parce qu'on imagine l'espace d'abord du travail au niveau de la primature, et d'autres personnes risquent même de ne pas travailler, de tourner les pouces.
Exactement, et je crois que le premier problème c'est quoi? Quand vous avez 600 personnes, c'est vrai, on ne peut pas comparer, il y a des pays où il y a peut-être plus ou moins, mais la question, pourquoi 800 personnes à la primature alors que le premier ministre n'est qu'un chef, un chef d'une équipe, une équipe composée de membres du gouvernement qui ont à leur tour des cabinets et qui ont toute une administration derrière eux pour traiter le dossier de la République. Donc le premier ministre doit avoir des conseillers qui orientent des dossiers, qui l'aide à comprendre tout le dossier qui vient de ce ministère, et donc il ne doit pas avoir une équipe qui est là pour traiter les dossiers qui doivent être traités dans le ministère. C'est ça exactement nos textes en République démocratique du Congo. Et donc, avoir ce pléthore de 800 au niveau de la primature, ne plus avoir comme mission d'entretenir sa famille et de consommer le budget de l'État en violant les textes qui sont là. De notre côté, il y a un budget de la primature qui
Que disent les textes? Parce que dans la configuration politique actuelle, on sait comment ça se passe. Ce sont des alliances qui se font au niveau de la politique et le cabinet est composé. D'ailleurs, le ministre n'a pas une marge de manœuvre parce que ce sont des partis politiques qui envoient des gens et finalement, c'est aléatoire.
Et moi, j'étais ministre, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas eu une seule personne qui m'a été imposée par le NFR, mon parti. Et vous pouvez vérifier, les documents sont encore là. Je n'ai pas eu personne. Mais j'ai demandé à mon parti, je les ai envoyés des profils, et j'ai dit que les personnes répondent à ces profils. Et les personnes qui m'ont été envoyées par le parti, je les ai interrogées avec mon secrétaire général et mon directeur de cabinet. On a interrogé, on a mis les gens devant une interrogatoire pour savoir exactement ce qu'ils répondent au profil. Si on veut des résultats, on choisit des personnes qui vont vous aider à avoir des résultats. On ne le fait pas sur base d'appartenance au parti politique ou bien d'appartenance régionale ou familiale. Si on ne veut pas des résultats, alors on choisit ses membres de famille, on les met au cabinet, parce que là, il s'agit de partager le butin, de partager l'argent.
Alors je disais tout à l'heure qu'en 2016 on était déjà pour le compte tout simplement de la primature à 606 agents, 2016 je l'ai dit bien, aujourd'hui en 2017 des bruits en tout cas tournent autour de 800 personnes, conseillers et personnels d'appoint, sans compter des administratifs qui sont payés par l'administration publique. Mais est-ce que si déjà en 2016 600 agents, les indemnités de sortie de ces personnels a coûté au trésor plus de 5 101 725 000 dollars américains. Donc aujourd'hui, on est déjà au-delà des 6 millions. Donc c'est de l'argent qu'on pouvait.
C'est quoi construire des écoles,
Oui.
C'est quoi construire des écoles et payer peut-être certains enseignants. Ça, c'est scandaleux. Moi, je vous l'ai dit, la primature a en plus des membres du cabinet désignés par le premier ministre lui-même. La primature a une administration. Il y a un secrétariat général à la primature où il y a des fonctionnaires, des agents. Nous avons formé des énarques. Les meilleurs de nos énarques ont été versés dans cette administration de la primature, des jeunes compétents. Mais écoutez, si vous recrutez des jeunes sur concours, vous les formez, vous les envoyez certains en France, ils reviennent, ils veulent travailler, mais au-dessus d'eux, ils ont des membres de famille, de cousins ramassés, je sais pas moi, sur la rue. Et puis après, vous voulez quel résultat? Il n'y a pas de résultat là, il n'y aura pas de résultat. Je crois que c'est quand même scandaleux de voir qu'on se comporte à la tête de l'État de cette façon-là. Et en plus de ça, je comprends très bien la population quand il s'est dit, écoutez, bon, on a pensé qu'en prenant quelqu'un de l'opposition, il va changer, mais bon, vous voyez très bien que cette gestion, en tout cas sur ce point-là, n'est pas comparable à ce que Matata avait fait. Et c'est déplorable de voir que l'opposition qui critique, qui arrive une fois au pouvoir, se comporte de façon cavalière et utilise les
sens critiques pour... Merci beaucoup Jean-Claude Kibala. Nous vous gardons en ligne. Il est temps pour nous de faire le tour du pays avec les auditeurs qui nous ont rejoints. Et même ceux qui sont à l'étranger peuvent intervenir dans cette émission pour voir comment chacun de nous commente cette actualité et que cela inspire aux uns et aux autres. 09 97 06 633 0 ou encore les 09 97 49 69 pour l'intervention en direct.
Funky. Tout sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 6h30, 13h30 et 20h30. En rediffusion, le mercredi à 9h15.
Nous avons Amos qui est à Bukavu, qui nous a rejoint à ce niveau du débat. Amos, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les invités de la radio Okapi, bonjour à l'invité. Au fait, pour au sujet au studio, nous pensons que ce qui est en train de se passer en RDC aujourd'hui prouve combien de fois RDC fait la honte à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie. Comment comprendre qu'avec de moins de 5 milliards au niveau national, on peut avoir des personnes qui sont engagées à la primature et il faut se poser la grande question, comment ces gens sont engagés? Par népotisme, par influence, fils de tel, ami à tel. La RDC sera gouvernée. Et même pour les qui parlent du profil, je pense que ce qu'on vient de vivre à la prison démontre que dans toute la RDC,
nous. Alors, Amos, oui, Amos, on a des petits soucis avec votre ligne. Je ne sais pas, peut-être là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez, ne fût-ce que changer de position, on verra si ça va aller. Parce que là, il y a des micro-coupures.
Moi, je suis très bien.
Alors, il y a des micro-coupures. Allez-y.
Ok. J'étais en train de dire que c'est un problème parce que ce que nous venons de vivre la partie démontre la réalité. C'est vu aujourd'hui en RDC. Quelque fois dans des provinces, dans des territoires, on te donne un gouverneur qui récupère tous les membres de ta famille et ceux qui ont étudié et ceux qui n'ont pas étudié. Et c'est là qu'on raconte que quelqu'un qui a fait les mathématiques, il travaille déjà au ministère de la Santé, quelqu'un qui a fait la médecine, il devient juriste. Ça montre qu'aujourd'hui, on gère la RDC par tâtonnement, les pays gèrent par tâtonnement. Eh bien, on se demande. Je venais de l'invité qui parle que non, tout le monde pensait que les qui sont certains soi-disant opposants, quand ils ne sont pas aux affaires, peuvent aider les pays à avancer. Mais si vous essayez de regarder depuis que Kibala qui s'appelle opposant, Bruno Kibala, oui, et à la primature, on est en train de vivre des situations scandaleuses qui démontre que finalement, qui finira par sauver le peuple congolais, qui finira par sauver le pays. Parce que les gens qui parlent la journée, qu'ils peuvent travailler pour l'intérêt de la population, ils sont aux affaires, on voit qu'ils agissent très mal par rapport même à ceux-là qu'on est en train de condamner. Parce qu'on ne sait pas comment quelqu'un qui a 800 personnes dans son cabinet, où ces gens travaillent, est-ce qu'ils ont d'abord les locales au sein desquels ils peuvent travailler. Je me demande, il y a combien de bureaux à la primature, il y a combien de temps à ces gens de travailler valablement et parvenir à répondre aux besoins de la population congolaise. Parce que la primature n'est pas n'importe quel ministère. C'est la primature qui doit juguler tout, qui doit tout contrôler, l'administration du pays, la police, tout. Mais au cas où il y a de tels problèmes, on commence déjà à se battre à cause de l'argent. C'est déjà très grave. C'est très grave. Merci. Et une autre question qu'il faut se dire. Somme qui venait de démissionner, pourquoi il n'a pas dénoncé ça quand il était encore aux affaires? Lui aussi a profité de ça. Mais aujourd'hui, comme il vient de démissionner, c'est là qu'il commence à dénoncer que non, il y a des problèmes. Il y a des problèmes scandaleux au niveau de la...
Merci
Donc,
beaucoup.
Voilà ce qui prouve que nous devons nous battre
voilà.
pour
parvenir
à mettre ça à ce système et doter à la République des hommes responsables pouvant servir le peuple.
Voilà, vous avez retenu ce que a dit tout à l'heure notre invité. En ce qui concerne le profil, on doit éviter des recrutements aléatoires, ce qui mène souvent ce genre de difficultés au sein des cabinets. Et notre invité a même rappelé qu'effectivement, les rôles que devaient jouer les énarques, qui sont en tout cas éminemment bien formés, pour répondre en tout cas à ces besoins de l'administration au sein de nos cabinets et aussi des officines politiques. Mais malheureusement, ces jeunes formés ne sont pas privilégiés pour être nommés dans des postes d'exécution au niveau des cabinets. Merci beaucoup, Amos. Vital, vous êtes à Ouattara, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Gilles. Bonjour, Adio Capi. Bonjour, ministre Tchibal. Bonjour aussi à tous mes amis qui nous suivent.
Ouais.
Vraiment, c'est une honte, Gilles. Hein, c'est une honte. C'est quelque chose qui devrait être fait en toute responsabilité. Mais moi, je peux vous dire que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous connaissez, le président de la République devrait réellement respecter l'accord du 31 décembre. S'il allait seulement juste respecter cet accord, on n'allait pas arriver à ces choses ici. Et vous savez très bien, M. Tchibal, je le connais personnellement, c'est un grand, c'est un vieux de Kinshasa, mais il se pose quelque chose même au sein de l'IDP. C'était pas un monsieur qui avait même quelqu'un pour porter sa mallette. Et vous vous imaginez quelqu'un comme ça, vous le ramassez dans un groupe de gens qui ont travaillé en toute responsabilité, vous le ramassez, quelqu'un qui n'a même pas un conseiller, qui n'a même pas un porteur de mallette, et vous le mettez premier ministre à la tête de notre pays. Regardez maintenant les résultats. Regardez les résultats. Dans ce pays, nous devons apprendre à respecter les accords, à respecter nos engagements.
Oui, mais Vital,
dans l'infantillage comme ça.
Oui, Vital, quand vous parlez de respect des accords, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Nous l'avons dit en sommaire. Depuis 2009, nous avons connu ces cas. 400 conseillers à la primature à l'époque d'Adolphe Mouzitou et 606 agents en 2016. Si ma mémoire est très bonne, c'est à l'époque de Sami Badibanga. Et aujourd'hui, en tout cas, les révélations faites, 800 agents, conseillers et personnel d'appoint compris. Alors donc ça donne à penser à tout celui qui est averti.
Oui, c'est le même jeu. Vous savez, quand vous ramassez les gens qui ne sont pas organisés, les gens qui vivent un peu dans une petite pauvreté, et vous les essayez de les élever jusqu'à ce niveau-là, les conséquences seront les mêmes avec le Mouzitou et ses frères du Palou. C'était la même chose. Et cette IDPS ici qu'on a essayé de morceler pour essayer de faire voir que l'opposition... Non, ce n'est pas l'opposition. Quand vous volez quelqu'un au sein de sa famille politique, il devient traître, il est rejetable. Donc, c'est ça. Les résultats, c'est lorsqu'on ramasse quelqu'un qui n'a pas la capacité de gérer un groupe parce qu'il était juste derrière Yatiti en train de... avec des courriers, tout ça. Mais quand vous prenez un monsieur comme ça, vous le mettez à la primature de la RDC. Ouais, papa, vous ne pouvez que tirer des conséquences.
Est-ce que quelque part il n'y a pas confusion par rapport à tous ces politiciens ou encore ces politiques ou encore des gens qui ne savent pas faire la différence entre un homme d'État, un homme politique et un politicien?
Voilà, c'est ça la vérité.
Parce que finalement on est un homme d'État, on est un homme politique.
Qui se jette dans la politique parce qu'aujourd'hui la politique paye. Parce que si je suis derrière Jean-Pierre Bemba, je vais me retrouver. Si ça ne tient pas, je serai au PPRD. Vous voyez un peu ce vagabondage-là. Et quand vous mettez ces gens-là à la tête d'un ministère ou bien d'une ambassade, vous allez voir que ça va toujours échouer. La responsabilité revient à Joseph Kabila, qui a mieux préféré que d'échouer avec ces gens-là. Parce qu'il devrait respecter l'accord et on devrait...
Voilà.
Pas
alors là, je reviens encore Vital, parce que quand vous parlez de l'accord, cette situation date avant, d'ailleurs, l'accord, ce qui veut dire que les problèmes de l'accord ne se posent pas vraiment avec acuité. Nous allons recevoir Gisèle, qui est à Kinshasa.
Avec Mouzitou, quand même, JR, avec Mouzitou, c'était quand même classique. Mouzitou, c'est un technicien, il savait comment gérer cette histoire-là, bien que c'était un scandale.
Non, le problème, c'est le budget. C'est le budget, notre ami Vital. C'est le budget, parce que tout ça, ça a un impact sur les budgets. Merci beaucoup. Gisèle, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors, commencez par éteindre votre poste récepteur, et si au besoin, vous pouvez peut-être vous déplacer, vous vous éloigner de ces postes.
Oui, moi je crois que c'est un problème d'opportunisme. Pourquoi je dis opportunisme? C'est ce qui justifie qu'on parte de 400 et quelques à 800 membres. Quand on met quelqu'un qui se dit, voilà, c'est une opportunité de pouvoir enrichir ma propre famille. Voilà pourquoi on ne tient pas compte du profil. On engage n'importe qui et on crée des postes qui n'existent pas. On se demanderait même comment ils font à la primature. Il y a des gens qui se tournent les pouces à ne rien faire. Parce que s'il faut passer de 400 à 800 membres, ça veut dire que tout le monde met n'importe qui. On va peut-être se retrouver avec ses enfants, 4-5 enfants à la primature, alors qu'ils ne font rien. On oublie que la primature, c'est l'État même. C'est la primature qui dirige le gouvernement. Donc les gens ne se rendent même pas compte pourquoi ils sont là. Voilà pourquoi il y a même des opposants qui se créent, parce que quand ils sont mécontents, opposants.
Mais alors Gisèle, Madame Gisèle, j'ai posé tout à l'heure la question à votre prédécesseur. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une confusion autour de qui est politicien, qui est un homme politique et un homme d'État? Parce que accéder notamment à des postes de responsabilité dans un gouvernement, ça, c'est pratiquement des politiques ou encore des technocrates qui peuvent travailler pour, au fait, relever certains défis. On n'est pas obligé d'être un politicien pour accéder directement à un poste au niveau du gouvernement.
Mais justement, il y a des postes techniques, comme vous dites. Quand on est politicien, on n'est pas obligé d'accéder à des postes, parce qu'il y a des postes, comment on dit, réservés aux technocrates. Réservés à ceux qui savent. Malheureusement, mais on peut dire ça, oui, mais malheureusement, ce que nous constatons ici, dans notre pays, même si on engageait des technocrates, même si on engageait des politiques, quand ils vont là-bas, c'est la même chose. Voilà pourquoi je reviens à cette histoire d'opportunité. Justement, parce qu'il y a des technocrates qui nous ont déçus aussi. Quand on va là-bas, on retrouve n'importe qui. On ne tient pas compte du profil. C'est ça le plus important. On peut, d'accord, engager un membre de sa famille ou même son enfant. Mais si cet enfant-là répond au profil, nous avons besoin de résultats. Si on met n'importe qui, n'importe où.
Mais depuis 2012, madame, depuis 2012, on n'a pas connu assez de gouvernements composés des technocrates. C'est comme si c'est la politique qui domine maintenant.
Mais justement, quand il y a tout le temps des accords, bon, entre guillemets,
des alliances.
C'est justement ça, les alliances. Voilà, c'est ça le terme qu'il faut. Quand il y a des alliances, on met n'importe qui, même dans les partis politiques. Ils doivent d'abord tenir compte de la personne, du candidat qu'ils proposent par rapport à un poste pour répondre aux besoins de la population, aux besoins du pays. Non, mais c'est convenant, c'est par alliance, c'est par je ne sais pas quoi. On nous envoie n'importe qui à n'importe quel poste. C'est justement ça qui fait que le pays ne marche pas, le pays n'avance pas.
Parce que 800 agents, c'est un manque à gagner pour l'État, et surtout en ce moment où les esprits sont tournés vers la recherche, par exemple, des ressources financières pour l'organisation des élections.
Mais il y a un manque à gagner énorme. Énorme. Quand on a créé, il y a toujours un budget. On budgétise tout. Pourquoi il y a un budget? C'est par rapport aux besoins. Quand on a prévu un budget pour 400 membres, on se retrouve avec le double. Qu'est-ce qu'on fait? On va creuser à gauche, à droite. Ce qui va empêcher que les ressources aillent ailleurs pour pouvoir, par exemple, suppléer aux élections. C'est justement ça. C'est vraiment ça qu'on déplore.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Gisèle, d'avoir appelé. Et nous reprenons vos propos. Vous insistez beaucoup plus sur l'opportunisme. Et c'est juste un effet d'opportunisme qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politiciens, il n'y a pas d'hommes d'État. Des gens qui accèdent à des postes de commandement, ils ne sont ni l'un ni l'autre de ce que nous avons évoqué. Ils y vont simplement par opportunisme. Et voilà pourquoi ils tombent facilement sous le coup des népotismes en prenant tel frère, telle sœur ou encore un autre membre de parti, quoique ne répondant pas au profil. Merci beaucoup. Alors, Bita, vous êtes en Badaka. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR.
Quelle est votre contribution?
Oui, je dis que le cas qui s'est produit à la primature de notre pays, mais cas de figure, c'est notre cas de figure, dans la mesure où le système de la gouvernance de notre pays axé sur le clientélisme, la parenté, l'amitié et d'autres confonds, la gestion de l'État à la gestion de son Europe, de son ONG et de son musique ici, si vous me permettez l'expression. Je disais que ce n'est qu'un cas de figure. Moi, je vous appelle là, je suis un Bandaka. Un auditeur de Ouattara, si je m'abuse, a parlé de la situation qui range, qui caractérise la gestion de notre pays. C'est à tous les niveaux. Je dis que je suis un Bandaka où il y a un gouvernement provincial dirigé par un gouverneur qui nomme ses enfants, ses beaux frères, ses amis, et donc tout le culte de la province, de la gouverneur de la province revient à lui-même. Il confère la gestion de son ONG à la gestion de la province. Voilà, c'est le chaos. Le chaos est généralisé. Pour qu'on revienne à cette situation, nous devons revoir le sommet de notre pays. On doit aller aux élections, on doit changer le leadership. Un leadership chaotique, peu suffisant, qui ne maîtrise pas les principes de la gouvernance de l'État. On confère l'État au parquet, même le territoire, même le bourgmestre ou l'athée, celui qui administre un territoire ou le bourgmestre qui est dans une commune, est régi par la Constitution. Mm-hmm. Et les lois qui organisent la décentralisation pour le cas de bourgmestre, il y a aussi des lois qui régissent l'État congolais et qui les athées. Mais lorsque cette confusion prend la place sur ce principe directeur qui doit conduire l'État, c'est vraiment déplorable. Mm-hmm. Nous déplorons l'état de la climatique, il n'est pas seulement question de la climatique, il est question des gouvernements provinciaux. Le ministre qui compose le gouvernement qui va là, c'est vraiment le cas. Mm-hmm. Si vous parcourez le ministère, le premier ministre qui va là, vous allez constater que chaque ministre a sa femme, son parfait, son frère est concerné, et son directeur du cabinet, c'est ça le système de la gestion.
Voilà, je crois que
nous devons, comme le veut le dire Gisèle, résumer sur le bon sens, dire que l'État n'est pas profond à sa maison, à sa musique, à son ONG.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bita. Alors, on va revenir à vous, notre invité, Jean-Claude Kibala. Vous êtes ministre honoraire de la fonction publique. Vous avez suivi les uns et les autres, Amos, Vital, Gisèle, Bita. Ils ont tous parlé avec leur cœur. Alors, est-ce que vous avez une réaction? Et surtout quand on évoque encore des principes directeurs en ce qui concerne la décentralisation, quel doit être l'esprit qui doit animer, en tout cas, les hommes d'État en ce moment? Parce que là, vous l'avez dit, et les autres vous ont relayé aussi, qu'il s'agit bel et bien d'un cas de scandale.
Oui, J.R., moi je pense que bon, et je suis très heureux de voir que nos compatriotes, quel que soit le lieu, la province ou bien la capitale où ils appellent, vous voyez très bien que cette situation préoccupe les Congolais. Ils veulent avoir une gestion transparente, une gestion responsable, surtout à ce niveau-là. Et donc, comment voulez-vous qu'au niveau du territoire, au niveau de communes, les gens, ou bien de provinces, même, on a évoqué les cas des gouverneurs, les gens puissent se comporter autrement quand, à la tête de l'État, on affiche ces comportements. Et moi, je dois dire, en réalité, on dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Malheureusement, c'est ça, la situation de la République. Par rapport au choix, il y a une responsabilité. Qui nomme le Premier ministre? Parce que j'ai entendu aussi certains dire comment on devient responsable à ce niveau, comment on devient en politique et comment on arrive à ce poste de Premier ministre. Il y a des qualités, il y a un cursus qu'on doit avoir. On doit avoir géré quelque part pour arriver à gérer une république. Ça, c'est des éléments qui doivent nous interpeller aujourd'hui. Et je crois, en réalité, dans la précipitation de trouver une solution proche du pouvoir à la crise politique, on s'est précipité à faire le choix de ceux-là qui accepteraient de s'humilier et de quitter les alliances qu'ils avaient avant pour accepter des postes. En réalité, le choix n'a pas suivi la préoccupation majeure de la République de chercher quelqu'un capable, dans une situation de crise, de donner des réponses aux préoccupations des Congolais, notamment en ce qui concerne l'organisation des élections. On a cherché quelqu'un qui devait répondre à une préoccupation précise, c'est-à-dire travailler pour le compte ou bien tout simplement donner l'impression que l'accord a été appliqué. Je l'ai entendu aussi, mais ce n'est pas l'objet, le sujet d'aujourd'hui, l'accord. Mmh. Aujourd'hui, le sujet, c'est de savoir comment on peut consommer les fonds de l'État en prenant des membres de la famille, on l'intègre dans l'administration. C'est vrai, ces membres de la famille peuvent être des compétents.
Tout à fait, qui répondent au profil, par exemple.
Est-ce qu'il y a eu un recrutement? Est-ce qu'il y a eu un recrutement sur base d'un profil? Non, on le voit bien, la cacophonie, c'est la fille qui dirige, c'est les petits frères qui donnent des ordres, c'est le cousin, c'est le mari de la fille, de la fille qui se bat avec le directeur de cabinet. Bon, c'est vraiment un désordre. Je dois vous dire un élément. Peut-être qu'il y a aussi un message politique là derrière. Mmh. Malheureusement, c'est un message politique qui ne toucherait pas vraiment l'opposition. Parce que je dois vous dire, le temps que je viens d'y faire, après avoir démissionné du gouvernement, il y a de la qualité, il y a quand même des personnes responsables. Mais on cherche certainement des gens qui vont répondre à un profil bien précis qu'on cherche. Le cas est Tshibala. Bon, je dois vous dire, en réalité, vous avez aussi parlé de 600. C'est totalement irresponsable. On n'a pas besoin de 600 conseillers. On n'en a même pas besoin de 150 à la primature. Comme je viens de vous dire, il faut comprendre le fonctionnement d'un gouvernement. Le premier ministre est un chef d'équipe. Il a des conseillers qui doivent exactement être en contact avec les ministères, savoir gérer les dossiers, donner des avis sur les dossiers qui viennent des ministères. Le premier ministre n'est pas là pour commencer à produire des dossiers à la place de ministre. Les ministres sont responsables de leur ressort. Le premier ministre n'a pas de ressort. Les conseillers n'ont pas de ressort. Ils sont là pour donner des conseils. Alors pourquoi on a besoin de 800 conseillers alors qu'on n'a pas 800 ministères?
Mais il y a eu, à l'époque, vous étiez encore alors ministre de la fonction publique, le premier ministre honoraire Matata Ponyo avait signé quand même, avait limité les nombres des agents au niveau des cabinets, au niveau des, en tout cas des nominations, la composition du personnel du cabinet. Et il l'avait limité à combien?
En réalité, moi je pense qu'on n'avait pas plus de 15 personnels. Mmh. En fait, au niveau des conseillers, hein, on n'en avait pas plus que ça. Et on a fait du boulot, on a fait du travail, parce qu'on a l'administration. Il faut faire travailler les agents de l'État. Dans cette administration, il y a des cadres. Il y a des gens qu'on a envoyés, qui ont été formés dans plusieurs pays. Il y a des gens qui ont l'expérience. Il faut les utiliser. On ne peut pas dire que, bon, voilà, c'est une administration foutue. Il y a des gens. Et moi, à la fonction publique, ceux qui ont produit les documents de réforme, c'est des agents de l'État, des compétents, qui ont produit le document de la réforme. Et ces documents ont été adoptés après au Conseil des ministres. Le premier ministre Matata avait un conseiller détaché, c'est-à-dire un conseiller qui suivait la réforme, et c'est ces conseillers avec lesquels on discutait les dossiers et les avis du premier ministre, les avis que le premier ministre donnait sur le document. Et une fois c'est fait, les documents étaient adoptés, on n'a pas besoin des gens à la primature qui doivent commencer à faire le travail de ministre. Donc c'est un pléthore qui justifie comment l'intention de vouloir donner de l'emploi à ses membres de famille ou bien de justifier la raison pour laquelle on a besoin de beaucoup d'argent. Et en réalité, on met les membres de la famille qui remettent peut-être une partie au directeur de cabinet, parce que vous avez vu la liste. Hein. Bon, on vous dit que le salaire normal d'un conseiller au temps de Matata, parce que c'est le même budget qui a été repris, c'était autant.
Tout à fait.
Et alors, le conseiller touche peut-être un dixième ou bien 30% de ce que l'autre...
Les ministres.
Voilà, touché avant, et le reste, il va où? Il va dans les poches des gens qui ont engagé ces 800 personnes. C'est vraiment quelque chose de scandaleux. Et moi, je me dis, ça donne une mauvaise image de l'État.
Alors,
c'est pour cette raison que moi, je suis d'avis qu'il faut, en réalité, reconstruire cet État-là. Et pas, il ne faut pas le reconstruire avec des gens comme ceux-là qui se trouvent aujourd'hui à la primature. Il faut le construire avec des gens qui aiment le Congo.
Merci beaucoup, alors Jean-Claude Kibala. On va revenir encore à vous. Le temps de rappeler à ceux qui veulent intervenir dans cette émission qui consacre les débats sur les scandales qu'il y a eu à la primature, où les nombres des personnes qui travaillent, 800 personnes, conseillers personnels d'appoint compris, sont nommés et travaillent depuis une année maintenant à la primature. D'autres sont payés, d'autres non. Alors ça crée parfois des frustrations. 09 97 06 63 30 ou encore les 09 97 04 969 pour votre intervention en direct.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Pamela Amunazo et Jean-Didier Ogobani vous amènent dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le jeudi à 15h30.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ces cadres d'échange citoyen. Claude, vous êtes à Likasi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir associé au débat d'aujourd'hui. Je voulais dire d'emblée que le pays est dirigé généralement par des aventuriers. Ces Congo ici, ce sont souvent les aventuriers, les opportunistes, les médiocres, les malins qui essayent toujours de se positionner dans nos institutions et essayer de nous diriger et aucun sens du patriotisme, aucun sens du civisme, et c'est vraiment scandale. Vous savez, vous venez de le dire tantôt, en 2016, c'était 606 et cela prenait 5 millions. En 2008, en 2018, c'est au-delà même de 600. Donc on s'attend à ce que ça soit
plus de 5
au moins
millions.
6 millions. Maintenant, moi, je me pose quelques petites préoccupations. Les budgets de la primature de 2018, est-ce qu'ils le respectaient? En dehors de ça, les nombres du personnel, n'est-ce pas, pour le cabinet du ministre et même des autres cabinets, des autres ministres, est-ce que ce nombre n'est pas déjà déterminé d'avance par le Parlement qui doit être là pour, n'est-ce pas, contrôler le gouvernement? Est-ce que ce nombre n'est pas déjà déterminé pour dire qu'il faut autant? Si ce n'est pas déterminé, mais c'est ceux qui doivent déterminer qui cautionnent ces bêtises.
Alors, donc, si je comprends bien,
oui, je vais vous donner un exemple, je m'excuse.
Si je comprends bien, Claude, enfin, donc vous demandez à ce que les législateurs puissent y penser. Parce que, au regard des gouvernements qui se sont succédés depuis 2009, on se rend compte, en tout cas, qu'effectivement, il y a des compositions du gouvernement à géométrie variable. On est parti de 40, on est passé à 80, et puis finalement c'est 67, 68 aujourd'hui, au-delà même, donc ça prête à confusion.
Oui, justement. Vous savez, quand nous élisons les députés nationaux là, c'est pour dire que ce que nous parlons avec vous, par exemple, au studio, tout le monde ne l'écoute pas. Ce n'est pas officiel. Ce sont nos représentants qui doivent essayer de mettre de l'ordre dans ces histoires. Mais dès qu'ils arrivent là au Parlement, là, c'est dormir, c'est répondre au mot d'ordre. Même les bêtises, ça passe. Même quelqu'un qui n'a pas un CV, qui n'a pas un cursus normal, qui n'a pas la capacité d'homme d'État pour diriger le pays. Bon, il parle là-bas, c'est juste les formalités. On fait tout ça en aval. Je voulais vous donner un exemple. En France, lorsque le président de la République arrive à l'Élysée, il n'arrive même pas avec un sac, juste ses habits. Il trouvera les cuisiniers là-bas qui a déjà servi au président précédent. Il trouvera un chauffeur qui a déjà conduit plus de 3-4 présidents. J'ai même suivi des documentaires. Donc, vous n'arrivez avec vos membres de famille et au cabinet, vous n'avez constitué que votre cabinet politique, c'est fini. Le personnel, les jardiniers, vous les trouverez là-bas, sont des fonctionnaires de l'État. Affectés là, ils travaillent. Même si vous quittez, il y aura d'autres. La conséquence maintenant, c'est ce que vous voyez dans les scandales. Somme démissionne, l'autre gendre est là. Il est là, il gonfle, quand nous parlons là, il est là, il tourne, il demande de l'argent, il veut voyager en Europe, tout ça. C'est l'argent de son papa qui a fait le commerce, c'est fini, il le prend, il joue avec ça. Moi, je me dis que, en tout cas,
c'est un scandale.
Olengan Koy, qui est le président du Rassemblement, qui a déposé les noms du Premier ministre qu'on a ici, et quelque part, il faut avoir honte. Hein, il faut avoir honte, il faut quand même rappeler, hein, donner.
Oui, mais il y a, oui, Claude.
Le pays est différent de la maison.
Alors, nous
le
avons.
Le pays est différent d'un projet personnel.
Alors nous avons vérifié.
C'est pour tout le monde.
Voilà, nous aurons à vérifier parce que nous avons vu que certains membres de RASOP El Kassavoubou ont demandé au Premier ministre quand même de réagir, d'avoir une attitude responsable devant cette situation. Mais nous allons suivre de près cet événement, en tout cas dans les jours à venir. Merci beaucoup Claude d'avoir appelé et d'avoir aussi insisté sur l'absence des hommes d'État. Aujourd'hui, on prend des politiciens que nous estimons être capables d'assumer des charges de l'État. Merci beaucoup. Nsingi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup à Radio Capi et à nos très chers auditeurs.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Messieurs les journalistes, vous devez savoir qu'il s'agit d'un problème de maturité politique, simplement. Parce qu'il ne faudrait pas confondre un mobilisateur politique qui deviendra un jour un leader politique et qui, le leader à son tour, doit devenir technocrate pour donner rendre un bon service à l'État et puis finir un scientifique pour avoir une vision claire sur l'avenir de son peuple et de la République. Vous savez, il doit exister, mais est-ce que ça existe? Un règlement interne ou les statuts pour définir les nombres des conseillers, leur rôle et place à occuper. Enfin, d'arriver au bon fonctionnement et organisation du gouvernement. Est-ce que ça existe? C'est pourquoi j'ai dit qu'il s'agit simplement d'un problème de maturité politique. Le vrai problème s'agissant de l'affirmative actuelle, c'est le problème du tribalisme et népotisme au sein des institutions. Mais ces problèmes, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, l'a déploré lors de son discours, lors de son point de presse. Il dit, montrez-moi ou citez-moi le nom de l'un de mes familles politiques qui est dans les institutions. On n'a pas retrouvé, hein. Mais est-ce que le peuple congolais, vous les journalistes, vous avez compris pourquoi le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, la police, avait soulevé ces points? Est-ce que vous avez compris ce qu'il voulait dire? Il savait que les premiers ministres, les ministres, les mandataires de l'État, ainsi de suite, nomment au sein des institutions, engagent au sein des institutions de l'État les membres des familles. Mais cet extrait de la phrase du commandant suprême des forces armées, la police, Joseph Kabila Kabange, est-ce que vous avez fait analyse comment les chefs de l'État qui doit quitter son discours pour citer cette phrase-là, demandant, montrez-moi quelqu'un de ma famille qui est dans les institutions de la République. Il faisait allusion à quoi? C'était une pédagogie. Je vous ai dit l'autre fois, le chef de l'État.
Oui, allez-y rapidement, Tsingy, parce que finalement, vous avez déjà pris plus de deux minutes.
Le chef de l'État est en train de vous faire une pédagogie.
Oui,
péché au sein de l'opposition pour que vous voyez que ce ne sont pas des politiciens, ce ne sont pas des gens qui doivent vous rendre service.
Mais non,
vous
ce sont des politiciens, mais
ce sont
pas
les mêmes erreurs que vous allez encore faire demain.
Oui. Merci beaucoup,
Tsingy. Évitez ça.
Merci beaucoup, Tsingy. La question est encore relancée. Homme d'État, politicien, homme politique, le débat est relancé. Alors, Dominique est le conseiller principal du Premier ministre. Il nous suivait. Et voilà, il y a quand même quelques éclairages à apporter, selon lui. Alors, on va le recevoir. Monsieur Dominique, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour.
C'est Dominique qui, s'il vous plaît?
Monsieur Dominique, moi, je suis plutôt l'assistant principal de son Excellence, voilà, le Premier ministre.
Alors on voulait avoir cette précision parce que moi, je vous présentais comme conseiller principal, mais vous êtes plutôt assistant principal.
Assistant principal.
Voilà.
Assistant
alors, quel est l'éclairage à apporter?
Contribution à ce stade de débat. Il faudrait d'abord que nous puissions parler comme des techniciens. L'engagement d'un effectif pléthorique ne peut pas être justifié dès lors qu'il existe un cadre organique dans l'administration de la primature. Et donc, il ne peut y avoir d'emploi que de postes qui sont prévus dans le cadre organique. Et les postes qui sont prévus, tels que son Excellence M. le Premier ministre l'a dit, il y a environ entre 300 à 350 membres du personnel de cabinet, y compris jardiniers et tout le reste là-bas. Et les effectifs au niveau du cabinet politique sont également organisés. Il y a des postes pour les conseillers principaux qui sont bien énumérés. Il y a des postes pour les chargés d'études, pour les conseillers au niveau des collèges. Et que donc on ne peut plus, à moins d'être sur notre planète, on ne peut plus avoir plus d'agents que des postes qui sont organiquement prévus. S'agissant de du tribalisme ou de la tribalité, non. Je pense qu'ici, il faut plutôt parler de la compétence. Le premier à penser mieux faire en privilégiant d'abord la compétence sans tenir compte de la tribu. Vous pouvez le constater au niveau des collèges que tous ceux qui sont membres ou chefs des collèges et des conseillers ne sont pas de sa même tribu. Donc il faudrait avoir un peu de lucidité, un peu de la probité intellectuelle pour
voilà. Assumer des... Alors vous m'excuserez d'entrer un peu d'entrer vraiment dans la cuisine parce que l'actualité était claire. On a parlé du gendre et puis la fille du directeur de cabinet. Ce sont des personnels qui répondaient au critérium,
au profil. La fille du premier est licenciée en droit.
Licencié en droit.
Il y a c'est toute une famille qui a eu la chance de bien étudier et d'accrocher le diplôme au niveau de l'université.
Alors, c'est qu'on a reproché à des hommes d'État hier, les népotismes, oui. Les clientélismes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'opposition qui tient la manette a vraiment des leçons encore à donner à ceux qui autrefois étaient aux affaires avant eux?
Non, il n'y a pas de leçon à donner ou encore à faire allusion à une morale qu'il faut faire aux uns et aux autres. Moi, je crois que tout Congolais, c'est même constitutionnel, tout Congolais a droit à un emploi. Et si vous estimez que votre fils ou mon fils ou le fils du premier est un Congolais, dès lors qu'il remplit le critère, a droit constitutionnellement à avoir un emploi, nous n'allons pas en faire un débat.
Alors les énarques, nous avons suivi notre invité qui a parlé des énarques, qui travaillent au niveau de la primature, et dans la plupart des cas, ce sont des technocrates qui pouvaient faire. Bon, parce que ça frustre un peu quand on apprend que c'est le gendre qui est le conseiller principal, technique.
Non,
bon,
voilà, pas du tout, il faut corriger, il n'est pas conseiller principal, il est conseiller technique spécial.
Et son travail consiste
à quoi? Il y a toute une nomenclature de conseillers, oui.
Alors il fait concrètement
donc,
quoi?
Donc il est chargé des tâches ponctuelles que le Premier ministre peut lui confier.
Merci beaucoup. Donc des tâches ponctuelles du genre?
Pas du genre, en tant que technicien.
Technicien, logisticien,
électricien. Il y a des questions techniques spéciales qui sont prévues dans le cadre organique et pour lesquelles on peut embaucher tout celui qui répond au problème.
Merci beaucoup d'avoir accepté de contribuer dans cette émission. Merci. Mais monsieur le Premier ministre lui-même avait confirmé qu'il s'agissait des 80 conseillers. Allô? Allô? Monsieur Allô? Dominique?
Oui.
Donc il y a plutôt 80 conseillers.
Pardon?
Il y a plutôt 80 conseillers.
Oui, 80 conseillers.
80 conseillers qui sont payés par le budget de l'État.
Oui, qui sont payés par le budget de l'État, bien entendu.
Et d'autres personnages à point, ils sont payés aussi par le budget de l'État.
Oui.
Et ça fait combien l'enveloppe aujourd'hui?
Voilà. Allô?
Allô, l'enveloppe, ça fait combien?
Bon, il faut dire que c'est une tradition, hein, on n'a rien inventé. Vous avez suivi celui qui est passé avant moi pour parler, ou le directeur de cabinet en l'occurrence, qui a parlé de la même enveloppe et qui oscillait entre un montant, je ne peux pas tellement affirmer parce que ce sont des matières qui sont...
Donc c'est moins de 5 millions comme en 2016 ou c'est plus de 5 millions?
Pardon?
C'est moins de 5 millions l'enveloppe globale ou
non,
plus
non,
de 5
écoutez,
millions?
Ce sont des matières où, pour lesquelles il faut avoir des précisions. Je ne veux même pas m'hazarder à moins que je rentre au service
Merci
des finances.
Merci beaucoup, monsieur l'assistant.
Prochainement, quand vous allez me contacter, j'aurai les chiffres bien précis.
Merci beaucoup, monsieur l'assistant, d'avoir contribué à cette émission. Alors, on revient à vous pour conclure cette émission. Jean-Claude Chiba Kibala, voilà, vous m'excuserez un peu les lapsus. Vous êtes ministre honoraire de la fonction publique. Vous avez suivi même les conseillers. Quelle est votre réaction? Et ce sera la conclusion.
D'abord, je suis content que le conseiller ait eu le courage de pouvoir intervenir pour nous éclairer. Bon, les chiffres varient. Hein. Bon, on a entendu le premier ministre parler au public. Il a parlé exactement d'autres chiffres que le conseiller vient de donner. Mais aussi, vous voyez qu'il hésite de donner des chiffres. Vous savez, c'est la gestion de la chose publique. Hein. Il n'y a pas de secret. C'est le budget de l'État
Le public doit savoir exactement combien d'argent la population congolaise paye pour faire fonctionner un cabinet d'un premier ministre. Il n'y a pas de secret. Ailleurs, c'est des choses qui sont affichées. Il n'y a pas de secret là-dessus. Et donc, même le salaire de président, de premier ministre dans d'autres pays, c'est connu par le public. Donc, à ce point-là, le conseiller devait plutôt, avant de vous appeler, avoir tous les détails parce qu'il savait exactement qu'on pouvait lui poser cette question. Mais moi, j'ai vu en réalité que c'était une façon d'éviter des chiffres qui vont encore davantage scandaliser ou bien énerver la population qui prend en charge ces pléthores au niveau de la primature. Le deuxième élément...
Voilà, M. Jean-Claude, donnez-nous une minute, le temps pour moi d'accueillir Nico Kalambay qui est dans ce studio pour annoncer quand même le sujet de demain. Bonjour Nico.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
De quoi parlons-nous demain?
La Tanzanie vient donc d'annuler son accord de territoire douanier unique avec la RDC. L'accord spécial entre les deux pays signé le 9 juin 2014 stipulait que des produits comme le carburant, l'huile de cuisson, la farine de blé et les maïs et des véhicules automobiles pouvaient être acheminés vers la RDC via la frontière de Tunduma. Et pour l'administration douanière tanzanienne, l'objectif de l'accord n'a pas été atteint, notamment celui de faciliter l'accroissement du commerce dans la région, de réduire le coût des activités commerciales et d'éliminer le dumping des marchandises dans les pays de transit pour protéger les industries et les emplois. Comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez nous appeler demain à 9h de Kinshasa au 081 890 69 49.
Voilà, les dumpings. Les dumpings. Voilà. Merci beaucoup, Nico, et à très bientôt. On revient à vous, Jean-Claude Kibala, juste en une phrase pour terminer cette émission.
Oui, la phrase, c'est... Bon, en fait, la conclusion, c'est de dire... J'ai entendu quelqu'un dire que le chef de l'État n'a pas de membre de famille dans un gouvernement ou bien au sein des institutions. Il a raison. Je n'en connais pas. Mais... Il a oublié de dire que c'est le chef de l'État qui nomme le premier ministre. Et au cas où il se rend compte qu'il y a un abus...
Qu'il y a un scandale.
Il faut des sanctions. Et donc, c'est vrai que lui-même se comporte en tant que tel. Il ne met pas ses membres de la famille dans les institutions. Je n'en connais pas, mais il est responsable. Donc, pour le cas du premier ministre, il y a...
Voilà. Donc, il faut une attitude aussi à prendre en ce moment. Merci beaucoup, Jean-Claude Kibala, d'avoir accepté notre invitation. Et nous rappelons que vous intervenez depuis Allemagne, où vous êtes en séjour. Merci d'avoir accepté. À très bientôt. Nous nous excusons auprès de Franck de Vienne, qui devait intervenir en dernier. Malheureusement, on n'a pas eu d'espace pour lui. Ce n'est qu'une partie remise de Franck. À très bientôt également dans un autre débat. On ne peut pas se quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Willem Lungamba était à la mise en onde, Pierrot Elamegi à la réalisation, Nico Kalambay au standard de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.